Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, l'émission qui vous résume la synthèse des plus grands salons de la tech et vous en extrait la substantielle moelle de ce qu'il ne fallait pas en rater. On vous rappelle avec Lionel Tardy que vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify et bien entendu prêcher la bonne parole, partager celle-ci à la machine à café ou également auprès de vos proches en cliquant sur le bouton share. Bonjour Lionel.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Un sujet aujourd'hui capital, puisque effectivement nous sortons de cette grande période janvier, février, CES de Las Vegas, NRF de New York, Mobile World Congress de Barcelone, sujet de cet épisode.
Et oui, le mobile, c'est dans nos vies. Une petite anecdote qui n'intéressera personne que moi. L'autre matin, je me réveille et mon téléphone avait un écran noir. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai chargé toute la nuit, écran noir, etc. Bon, il est marqué avec une pomme. Et là, d'un seul coup, bah, vous êtes pris de, finalement, une sorte de tremblement. Vous dites, bon, il semble marcher quand j'appuie sur les boutons, ça vibre, mais l'écran reste noir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que si on m'appelle, je vais pouvoir répondre? Est-ce que s'il y a un message, je vais pouvoir l'avoir autrement? Et on se rend compte que finalement, bah, le mobile, parce qu'évidemment, on parle du Mobile World Congress aujourd'hui, le mobile est finalement devenu un des éléments, ou peut-être l'élément central de notre vie. Alors évidemment, on mange et on a besoin de manger pour survivre, on a besoin de dormir pour se reposer, etc. Mais finalement, dans toutes les activités que l'on mène au cours d'une journée, prendre un billet de train, réserver un parking, une place de théâtre, etc., c'est le mobile qui devient le carrefour de toutes les informations que l'on est capable de connecter. Et comme tout carrefour a son salon, le Mobile World Congress, qui est né dans les années, je sais plus, 1987, je crois, et qui a fait quelques villes, il est à Bruxelles, il est passé par Cannes, etc. Eh bien, aujourd'hui et depuis 2006, il est à Barcelone, il accueille pas mal de gens.
Pas mal de gens, puisque c'est entre 90 et 100 000 visiteurs qui viennent rencontrer les presque 2500 exposants, sans compter l'ensemble des conférences qui ont lieu sur cet événement majeur, qui se situe juste après le CES de Las Vegas et sur des sujets un peu similaires. On en parlait en préparant cette émission, puisqu'il commence, alors ça fait quelques années déjà qu'il se marche un peu sur les pieds, mais là c'est quand même de plus en plus significatif.
Complètement, le CES Consumer Electronics Show naît de produits, de présentation de produits électroniques, et puis l'arrivée de l'Internet, le virage des années 2000, la convergence au sens large entre le hardware et le software, a fait du CES le salon majeur de début d'année, voire de l'année calendaire, sur tout ce qui est innovation, dispositif au service de l'humain, que ce soit dans sa vie quotidienne, comme à la base consumer electronics, mais aussi dans sa vie professionnelle. Bref, une convergence d'écosystèmes très vastes. Et qu'est-ce que l'on observe avec ce Mobile World Congress? Eh bien, cette année, notamment, on voyait apparaître la première voiture. Alors, on avait bien sûr essayé avec les premiers tests de 5G de piloter une voiture à distance, mais tout ça était des tests de connexion wireless. Mais là, on voit apparaître avec la marque Huawei une voiture. Et on se rappelle qu'il y a quelques années, le CES était devenu pour certains le Cars Electronic Show. On y voyait apparaître des voitures. Et donc là, la réflexion que l'on menait, comme Mathieu, tu viens de le dire, c'était, est-ce que finalement ces deux salons, parce que tout est connecté, parce que toute la mobilité, qu'elle soit avec fil ou sans fil, devient quelque chose qui a besoin de générer de l'information, de piloter de l'information, de la recueillir et de la dispatcher, eh bien, est-ce que ces deux salons sont en train finalement de se rapprocher? Ils vont pas fusionner, mais ils vont finalement peut-être, à l'horizon de quelques années, 5-10 ans, peut-être pas tout à fait dans la même temporalité, eh bien, on va y trouver au Mobile World Congress des machines agricoles de John Deere.
Et pourquoi pas, hein, on voit tout ce télescope, CES, Mobile World Congress, Viva Technology, sont tous des salons qui courent finalement autour même des mêmes exposants, le plus souvent, puisque certains font les trois jusqu'à l'IFA de Berlin. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. On le situe, hein, pour notre part, sur un après CES, mais même en termes de préparation, ça peut potentiellement s'assimiler une préparation d'un CES. Donc les deux salons se télescopent, pourtant ils n'adressent pas les mêmes sujets, dans le dur. En tout cas, les exposants sont très telco orientés dans ceux qui sont présents autour du mobile. On va en parler dans un instant. En tout cas, le téléphone portable, bien sûr, mais il a été question de grands topics, de grandes thématiques, naturellement, l'intelligence artificielle et encore l'intelligence artificielle générative, cette connectivité intelligente, si on le met sous l'égide du Mobile World Congress, était une des thématiques phares de cette édition.
Oui, cette édition, on a vécu l'année 2023 sous la bannière de l'intelligence artificielle générative. Et déjà, entre le CES et Mobile World Congress, Samsung nous avait annoncé la sortie de son nouveau flagship, le Galaxy S24, qui intègre en natif un certain nombre de fonctionnalités qui, à portée du clic, va, grâce à l'intelligence artificielle générative, vous faciliter la vie dans vos conversations en langue étrangère, faciliter la vie dans vos photos. Et bien là, évidemment, tous les dispositifs du Mobile World Congress, que ce soit Honor, que ce soit tous les constructeurs de mobilité et de dispositifs téléphoniques, prétendaient ou affichaient avec des expériences plus ou moins convaincantes l'intégration d'intelligence artificielle générative. Plus besoin de savoir s'en servir avec l'art du prompt, poser des bonnes questions. Non, on a adapté dans un certain nombre de fonctionnalités directement accessibles au clic, hein, comme dirait un représentant de chez Honor, je crois. Le but, c'est de simplifier le nombre de touches, ou de clics, hein, si on veut, de touches de l'utilisateur, le nombre d'interactions, lui faciliter la vie pour qu'il puisse avoir le résultat qu'il souhaite le plus rapidement possible grâce justement à ces outils d'intelligence artificielle générative. Omniprésents pratiquement chez tous les exposants du Mobile World Congress qui prétendaient présenter des dispositifs directement à destination des usagers que nous sommes.
On sent dans cette dimension et ce que tu soulignes, notamment la patte de Xiaomi et de son Hyper OS qui fait le lien entre l'OS du téléphone portable et sa continuité en termes de service avec celui de la voiture qu'ils ont présenté d'un bleu très flashy mais qui était absolument intéressante à pouvoir analyser. Cette connectivité intelligente, elle s'est traduite, et tu parlais de points de contact, d'expérience avec le minimum d'interaction complexe, par ces nouveaux sujets ou nouvelles interfaces. On en parlait fin 2023, ils étaient présents UiPIN pour présenter ces nouvelles interactions, on va en parler. Le bracelet mobile ou le téléphone portable aussi devient progressivement un bijou, se plie dans tous les sens. On se demandait bien ce qu'on pouvait en faire il y a quelques années. Il commence à y avoir des cas intéressants. Le tout quand même sur une mobilité qui est pensée sous l'angle de la santé, sous l'angle du travail, où les notions finalement autour de l'opérateur étaient quand même bien présentes. Alors nous qui disions globalement il y a quelque temps qu'on était dans l'affranchissement progressif du téléphone portable et que c'était la norme qui allait venir, finalement c'est pas tant le téléphone dont on va s'affranchir, mais plutôt on va essayer en tout cas d'avoir une continuité par le logiciel, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Quels ont été les autres topics clés au-delà de l'IA et des telcos bien sûr sur ce Mobile World Congress?
Alors les autres topics, évidemment, ils sont dans le matériel, mais ils sont aussi dans des dispositifs qui sont des dispositifs informatiques et des dispositifs qui vont être de plus en plus gourmands ou avides de data. Et c'est et cette data à pouvoir déplacer et amener jusqu'à tout un tas de dispositifs, eh bien, on voit apparaître la 5,5G, important, la 6G, important. Alors, on sait très bien que nous, on a parlé de la 5G déjà depuis très longtemps et que un dialogue avec l'opérateur Orange témoignait du fait que si les opérateurs n'étaient pas passés à la 5G, en fait, ils avaient un vrai problème de saturation des réseaux. Mais là, on voit une 5,5G qui arrive, qui est annoncée avec un peu comme on a eu la 3,5G, hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est sur les mêmes dispositifs, mais on améliore la quantité de données que l'on va pouvoir véhiculer. Donc des ordinateurs qui sont présents parce que c'est de la mobilité, même si c'est pas la mobilité qu'on met à notre oreille, des dispositifs qui sont les dispositifs satellitaires et les dispositifs réseau, qui sont l'âme et l'ADN. Donc ça, c'est important. Et puis, évidemment, tout ce qui va être autour, comme tu l'as dit, le bracelet en forme de téléphone, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que l'on peut faire dans un univers où on ne peut pas tenir des dispositifs en masse sur nous, on n'a qu'un corps humain. Alors Samsung nous présente, même si ce n'est pas le premier à le faire, nous présente une bague connectée. Personne n'a pu la tester, elle était sous cloche.
Mais il y a eu pas mal de bagues, on a parlé beaucoup de bagues quand même aussi cette année. C'est là, ces objets...
Ah, parce qu'on parle beaucoup de santé, comme tu l'as dit tout à l'heure. La santé, la bague, c'est est-ce que l'on est obligé, alors aujourd'hui, alors bien sûr, la marque à la pomme fait un carton avec sa watch, mais si on n'a pas une watch connectée avec un dispositif de captation de données biométriques, on peut se retrouver avec un système un petit peu plus light, c'est-à-dire la bague qui vous accompagne, mais le problématique de la bague, et j'espère que Samsung aura réussi à le résoudre, c'est encore une fois la problématique de... je cherche le mot... de la batterie. C'est-à-dire, quelle est l'autonomie de la bague. Si la bague, vous devez la recharger tous les 6 heures, ça n'a aucun intérêt. Si vous devez la recharger tous les 12 heures, ça n'a aucun intérêt encore. Parce que l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir faire un cycle d'une journée, au moins avec un dispositif qui vous suit partout et que vous allez recharger peut-être le matin à votre petit déjeuner. Vous posez le dispositif, un quart d'heure après, il est chargé, vous passez la journée avec, le jour comme la nuit. Donc, on voit bien que la miniaturisation est intéressante, mais on parle encore à un moment d'énergie, de stockage et d'efficience du stockage d'énergie.
Mais d'où l'intérêt, c'est vrai que... oui, d'où l'intérêt d'utiliser ce qu'on avait vu chez Barracuda il y a 2 ans, je crois, qui était le bracelet 100% autosuffisant, qui se rechargeait par différentiel de température, qui captait de la photonique et qui pouvait s'auto-alimenter. Est-ce que finalement les bagues n'auront de capacité à être un vrai marché que si on n'a plus besoin de les recharger?
Complètement. Simplement, c'est vrai que le bracelet qui était une idée géniale et qui probablement va être mis à différentes sauces, on est quand même sur un dispositif qui prend un peu plus de place qu'une bague. Donc avoir des capteurs, récupérer l'énergie du mouvement du poignet pour en faire de l'électricité et le stocker pour donner vie et force aux capteurs qui sont équipés au niveau de l'attache du bracelet, puisque ce n'était que le bracelet qui était connecté, vous le montiez sur la montre que vous vouliez. On voit très bien la référence que tu as, mais c'est vrai qu'on est sur un dispositif qui est plus gros qu'une bague. Donc, arriver à miniaturiser tous ces éléments, en tout cas, le challenge est important. Mais il y a les, parce que c'est pas les seuls. Il y a Circular que l'on a vu qui est un français. Il y a Aura au niveau des bagues ou Oreo. Enfin, on a déjà pas mal de d'acteurs dans ce domaine. Et puis après, il y a les lunettes connectées. Forcément, hein, les lunettes connectées avec les informations sur le verre qui vont s'afficher, des informations de direction, des informations d'information. Alors c'est pas de la réalité augmentée, c'est de l'information que l'on a sur le verre. TCL, on a eu l'occasion d'en tester déjà il y a quelques années. Elle s'améliore toujours dans deux directions. La légèreté du dispositif, l'autonomie du dispositif, extrêmement important, parce que si on veut avoir quelque chose qui délivre de l'information et non pas avec un écran, mais quelque chose qui passe au travers le verre pour pouvoir s'afficher sur l'intégralité de la surface du verre, il faut avoir un dispositif qui soit à la fois autonome, avec une belle autonomie pour pouvoir l'utiliser, alors pas toute la journée, on va pas avoir des informations toute la journée devant les yeux, mais il faut un dispositif qui soit malgré tout facile à porter et que ce ne soit pas un handicap au niveau de vos oreilles et de votre nez, et qu'au bout de 2 heures ou même au bout de quelques minutes, vous disiez bon, bah ça suffit, je pose. Alors que si vous voulez avoir un dispositif qui puisse s'adapter, que ce soit avec des lunettes de soleil, mais surtout des lunettes de vue, c'est-à-dire quelque chose qui soit portable toute la journée, eh bien, il faut gagner en autonomie, il faut gagner en miniaturisation. On est sur la route, hein, on voit bien, hein, qu'on est sur la route, puisque les premières lunettes qu'on a pu tester, les premières paires de lunettes, il y a 5, 6, 7 ans, c'est encore un peu grossier. Mais là, on est sur la route, et il y en avait beaucoup qui étaient présentes cette année au Mobile World Congress.
énormément de bagues, d'objets. On va revenir sur le best-of. Il y avait quand même deux autres topics clés au-delà de ce que l'on a pu vous dire depuis le début de cet épisode, qui étaient plutôt dans les conférences, hein, de manière générale, qui était la durabilité, les enjeux autour de l'empreinte carbone, avec plusieurs interventions. Alors classiquement, on sait qu'Orange revient souvent par l'intermédiaire de sa CEO Christelle Edelman à parler d'offres plus résilientes, de produits éco-conçus, de sujets autour de la recyclabilité, des nouvelles offres qui vont pouvoir se dégager sur justement ces différentes manières d'entrevoir l'acquisition de ces objets que nous renouvellement beaucoup et peut-être beaucoup trop d'ailleurs. En tout cas, une vraie posture, comme depuis quelques années, autour de la durabilité qui se transpose et qui se décline d'un point de vue opérationnel, tel qu'elle a pu l'exprimer. Ce qui est intéressant dans cette notion de durabilité, c'est qu'elle se conduit en écosystème. Orange en a parlé avec une conférence où il y avait d'autres acteurs qu'Orange. C'était pas un monologue talk show uniquement dédié à la marque, mais également sur des initiatives plus collaboratives, avec une des conférences qui a été intéressante, qui est celle de VeChain. Alors VeChain, qui est aussi une crypto-monnaie, donc un crypto-actif qui est sous-jacent à cette démarche et qui propose en tout cas d'avoir des sujets autour de la responsabilité collective que nous pouvons avoir. Et eux considèrent, ils en ont fait la démonstration en expliquant un cas sur lequel ils avaient travaillé, de l'ensemble de l'impact que l'on peut avoir si collectivement nous faisons tous un petit peu, donc une petite action, et que toutes ces actions cumulées tels qu'ils l'ont fait avec ne serait-ce que 2400 personnes qui avaient répondu à l'appel de leur sollicitation pour présenter quelques actions qu'ils pouvaient conduire, et aux 140 000 actions qui ont été décidées ensuite, et à la façon dont ça s'est tangibilisé, ils ont optimisé, en tout cas eu un impact plus mineur, enfin ils ont optimisé, je sais plus si c'était des centaines de piscines olympiques en termes d'empreinte carbone liées au chauffage ou même à l'utilisation de l'eau. Et donc ça, c'était aussi intéressant de soulever quand même qu'on a une vision de la conduite en écosystème des enjeux autour du carbone, mais de cette responsabilité collective à pouvoir également faire écho à tout ce qui était tout ce qui touche aux enjeux auxquels on va être confronté dans les années qui viennent. Et puis on peut pas parler du Mobile World Congress si on parle pas de Thierry Breton, parce que je pense qu'en fait tous les ans, je crois qu'on a la petite leçon de morale avec effectivement cette incitation encore forte à travailler sur la réglementation, préserver la souveraineté européenne, et dans ces grands blocs qui, feu 2018, si je me trompe pas, avec la 5G, avaient posé de grands sujets, ou 2019, entre Huawei, entre les États-Unis et tout ça, il y avait eu énormément de conflits géopolitiques au travers de la 5G. Voilà, donc Thierry Breton positionne encore l'Europe comme l'acteur qui va apporter des réglementations et pouvoir favoriser favoriser, en tout cas préserver la souveraineté européenne face aux défis technologiques auxquels nous sommes confrontés, notamment cyber.
Oui, Thierry Breton, j'ai toujours un peu l'impression que c'est un homme parfaitement supérieurement intelligent, ça c'est évident, mais qu'il est en train toujours de prêcher quelque chose qui emmène l'Europe dans une forme d'isolationnisme technologique. On voit bien sûr que c'est pas nous qui avons inventé cette phrase, que les Américains innovaient, que les Chinois copiaient, que les Européens régulaient. Mais même si c'est très caricatural, on reste encore là-dedans. Quand on voit la taille au Mobile World Congress des stands, des marques chinoises, c'est juste apocalyptique.
Très dominant.
Et d'un autre côté, exactement. Et on l'avait déjà observé dans les salons précédents. Autre chose, quand on parle d'écosystème, si on se dit demain, il faut que l'empreinte carbone de chaque individu diminue, ça va de la du salut de l'humanité. Très bien. Alors, ça veut dire que on achètera moins souvent un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur. Bien, très bien. On va donc devoir le recycler ou avoir une durabilité plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des fabricants comme Samsung, on parle même pas de fabricants natifs comme Google ou Apple, qui ont leur propre operating system majoritairement répandu dans le monde, qui promettent des mises à jour, 10, 12, 15 mises à jour de leur téléphone, alors que eux, leur job chez Samsung, c'est de vendre des téléphones, hein, c'est juste ça. Mais ils savent très bien que demain, ils en vendront moins parce que, d'abord, peut-être que les révolutions technologiques qui se dessinent, même si l'intelligence artificielle générative intégrée aux téléphones et aux operating systems ont probablement révolutionné quelques petits usages, ils se disent on va en vendre moins. Donc si on vend moins de matériel, il faut qu'on gagne de l'argent autrement. Et comment gagner de l'argent autrement? Ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est en créant des écosystèmes profitables. Alors on en connaît un écosystème profitable, hein, c'est l'écosystème d'Apple. Hein. Mmh. On fait tout, hein, du cloud à la téléphonie en passant par l'ordinateur, la musique et le divertissement, enfin l'entertainment, la télé, etc. Et à chaque fois que vous respirez, si vous êtes Apple addict, hop, vous donnez quelques centimes à Cupertino. Et sans avoir besoin d'acheter le moindre matériel. Alors ça pose aussi la question que tous ces services numériques consomment énormément d'énergie. Hein, on parle qu'aujourd'hui, 20% de l'électricité dépensée dans le monde est pour alimenter nos systèmes d'information. Systèmes informatiques, réseaux, cloud, etc. Et que si évidemment on continue à déployer encore un peu plus de services reliés entre eux par tous ces dispositifs de communication, nous utiliserons encore un petit peu plus d'électricité pour les faire fonctionner. Par contre, on utilisera moins de matières premières parce qu'on recyclera, on aura une plus grande durabilité de chaque matériel, d'où cette nécessité est très visible des différents fabricants présents sur le Mobile World Congress, comme tu l'as précisé en parlant de Huawei jusqu'à sa voiture, encore une autre, eh bien, c'est de développer des écosystèmes parce qu'ils savent très bien que sur le plan matériel, c'est probablement fini, entre guillemets, probablement fini d'inonder la planète tous les ans, acheter votre nouveau téléphone, acheter votre nouveau truc. Non, mettez-les à jour. Donnez-leur une vie qui soit beaucoup plus durable. C'est aussi cet axe-là probablement qui se dessine. Et Thierry Breton a tout à fait raison de parler de réglementation et de surveillance de tous ces dispositifs. Maintenant, moi, je suis toujours un peu sceptique sur une Union européenne qui résonne avec une concurrence libre et non faussée à l'époque où la globalisation était à peine naissante, voire pas du tout, hein, si on parle des origines de la communauté économique européenne, et qu'aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, eh bien, on a des mastodontes qui sont, je parle pas du réseau social, mais on a des mastodontes qui sont face à nous, et ils se sont tous constitués en dehors de l'Europe. Dans les années 2000, on avait des Européens dans le top biz des entreprises faisant partie des telcos. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est fini. Au revoir. Hop, hop, hop. Vous avez disparu. Pourquoi vous avez disparu? Parce que vous êtes fait soit absorbé, soit vous êtes mort, soit vous êtes petit par rapport aux monstres qui se sont construits à côté de vous. À côté de vous, parce que nous, je vous donne cette référence de temps en temps, hein, quand Alstom allait mal, on a interdit que Siemens, l'Allemand, le rachète ou prenne des parts. On a préféré que ce soit General Electric. Et c'est partout. Et c'est partout. Et c'est pour ça que là, Thierry Breton fait ce qu'il peut au poste qu'il a, probablement. Mais le mindset de l'Europe devrait changer un peu si on voulait se confronter à ces aux géants qu'ils soient chinois ou américains qui viennent renforcer cette perception de certes le Mobile World Congress est en Europe à Barcelone mais on est des tout petits par rapport aux géants des télécoms.
Moi, je suggère, je sais pas vous, hein, tous les auditeurs qui écoutaient par milliers ce podcast, moi je pense que nous avons notre candidat pour cette année. Ouais, je voterai Tardy. Parce qu'avec Tardy, on innove. Avec Tardy, on n'est pas surpris. Tu vois, c'est...
Avec Tardy, on n'est pas surpris. Tiens, ça serait bonne, celle-là. Tu ne l'avais jamais fait.
Bon, en tout cas, voilà, c'était effectivement intéressant d'aborder quand même toujours ce salon sous un angle un peu plus large, un peu plus macro que les quelques produits que l'on a vus fleurir et qui nous ont naturellement emballé. C'est la deuxième séquence de ce podcast spécial Mobile World Congress, puisque nous allons partir à la rencontre des quelques projets, produits, services connectés qui nous ont emballés. Allez, la parole est à toi, Lionel. Quel est le premier produit qui t'a intéressé ou interloqué ou tu t'es dit donc peut-être erreur de casting, voilà. Allez, à toi.
Alors, bah c'est bien parce que tu me laisses le choix des produits qu'on a listés. Alors, moi, je vais en prendre un.
Parce qu'on prépare quand même les épisodes.
Il était sur le stand de Qualcomm, donc déjà, ça donne une piste pour certains. Il a été présenté en novembre l'année dernière par deux anciens de chez Apple, et ça s'appelle l'AI Pin. Alors, ah, Pin comme pins, hein, AI comme intelligence artificielle, et l'AI Pins, est-ce que c'est le futur du smartphone? Vous avez une petite broche, alors c'est pas un pin, ça c'est un petit peu plus gros qu'un pin. Vous avez une petite broche, mais là surtout à Barcelone, un, il était en démonstration, deux, il était en commande, et les livraisons sont promises pour dans quelques semaines. Hein, c'est, on n'est pas sur juste un prototype, un proof of concept, etc. Non, 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 non. Alors à quoi comme ça sert? Voilà, comme le Rabbit. Vous avez un petit pin auquel vous allez pouvoir parler, il va pouvoir comprendre ce que vous lui dites, vous répondre. Il a une petite caméra, il a même un petit projecteur laser pour pouvoir envoyer un faisceau dans votre main et y donner quelques informations, voire même y représenter des photos, alors évidemment en monochrome, enfin, etc. Bref, quelque chose qui pourrait être non pas le remplaçant du smartphone, bien sûr, mais probablement quelque chose qui pourrait être d'un usage à définir, parce que souvent les innovateurs lancent des produits et ce sont les utilisateurs qui inventent les usages pertinents ou les usages les plus pertinents. Bon, beaucoup se sont moqués d'eux. Le respect était que, comme ancien d'Apple, il méritait peut-être le respect. C'est peut-être pour ça qu'en novembre, on en a beaucoup parlé. Mais là, ils étaient là et les visiteurs ont pu le tester. Je suis pas convaincu de l'usage, je suis pas du tout convaincu de le commander, d'ailleurs je ne l'ai pas commandé, mais en tout cas, là il y a une démarche sur ce que pourrait être un dispositif, pas forcément sous forme de broche, mais peut-être dans d'autres types d'éléments de notre garde-robe ou notre panoplie, que ce soit paire de lunettes ou que ce soit manteau, etc. Des éléments qui deviennent des éléments intelligents avec lesquels on peut avoir une forme d'interaction, même si évidemment ils sont pas là pour remplacer le smartphone. À aucun moment on a dit que ça pouvait remplacer le smartphone. Mais à la recherche du futur du smartphone, c'est vrai qu'ils s'inscrivent dedans, parce que encore une fois, miniaturisation et capacité de comprendre ce que on lui pose. Alors évidemment, il faut qu'il soit connecté, donc vous avez une eSIM à l'intérieur. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce dispositif soit relativement autonome. Et quand on parle d'autonome, on parle aussi d'autonomie, et autonomie, ça, pour le coup, je ne suis pas persuadé que ça puisse être très très long. Par contre, je ne vois pas comment passer une journée, enfin, vous n'allez pas passer une journée à parler à votre AI Pin, donc on peut imaginer que bon, l'autonomie sera suffisante. En tout cas, la démarche est tout à fait étonnante, et là, il était à Barcelone, ça c'était surprenant.
Il y en a deux hein, qui se superposent presque sur ses assistants, le Rabbit d'un côté et l'AI Pin de l'autre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, parce que c'est pas du tout les mêmes interfaces, c'est pas les mêmes usages, ce que ça va donner, s'il y a une appropriation ou pas, déjà s'ils arrivent à en vendre quelques-uns, parce qu'ils ont lancé à peine les précommandes des deux côtés, quasiment en même temps. Donc à voir, à suivre. Alors moi, il y en a un qui m'a séduit. Alors, au départ, je me suis dit, est-ce que je parle des écrans qui s'enroulent? J'ai dit quand même, enfin, tout le monde en a un peu parlé. Il y a une démo qui est assez séduisante, qui est basée sur l'intelligence artificielle générative. Ça a été présenté sous un nom qui s'appelle SDXL Turbo Demo, et qui présente en fait une intelligence artificielle qui va générer un visuel sur la base d'un prompt ou d'une recommandation, mais ce, en temps réel. Donc on a l'image qui s'affiche, et on demande par exemple une voiture rose, bon, ben, il y a une voiture rose qui s'affiche, et au fur et à mesure, et c'est instantané, que le prompt, en fait, défile, ou qu'on l'améliore, qu'on l'enrichit, l'image s'adapte en temps réel. Lettre par lettre, on voit les évolutions qui sont en train d'arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, et finalement, on a, pas mal de choses à voir très certainement à terme dans l'IA générative, alors intégrée, puisque c'était présenté dans un téléphone portable, bien entendu, pour pouvoir à terme peut-être générer sans avoir à attendre que le prompt tourne et que le modèle travaille. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Bien sûr, il a été question d'écran qui s'enroulait, qui se pliait, il a été aussi question, Lionel, d'écran transparent.
Alors c'est un prototype, cet écran transparent. C'est assez intéressant de le voir parce que d'abord on se demande à quoi ça peut servir. Moi, je veux bien hein, que mon écran de portable soit transparent. Je suis pas forcément convaincu d'avoir envie de voir la tête de la personne qui est de l'autre côté de mon écran, qui est probablement mon collègue du bureau, ou alors un aquarium, hein, comme ils l'ont vu, comme on l'a vu dans le dossier de presse. Ce qui est intéressant, c'est en résonance avec tous les écrans transparents que l'on a vus sur le CES cette année, parce que c'était la grande mode chez Samsung, chez LG. C'est la capacité qu'ont ces écrans de devenir opaques. Donc, d'avoir quelques fonctionnalités qui pourraient s'appuyer sur la transparence. Maintenant, au quotidien, avoir un écran partiellement transparent avec vos fenêtres qui soient opaques à l'intérieur, vos fenêtres applicatives, je suis pas certain que ça soit terrible. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que c'était qu'un prototype, parce qu'on se rappelle que c'était du 720p. Donc c'est une toute petite définition, hein, autant dire que c'est là on revient presque 10 ans en arrière sur la taille d'un écran et 720 pixels de haut, c'est juste ridicule. Donc là, autant que pour un écran de télé, ça peut se concevoir quand on a un écran transparent, on a vu quelques cas d'usage, notamment chez LG avec leur sorte de jukebox, ils ont appelé ça autrement, je me souviens plus du nom, mais c'est plutôt intéressant avec l'écran devant et la visualisation des lampes, puisque c'est un ampli à lampe, etc. C'est plutôt sympa. Là, en tout cas, l'exercice est intéressant. L'exercice est intéressant, la luminosité est importante, le taux de contraste est important, le nombre de pixels est encore très très faible. De toute façon, ils n'annonçaient pas cet écran à la commercialisation. Ce qui était intéressant, c'est que le dispositif portable, qui était le dispositif de ce ThinkBook, hein, et surtout qu'il n'avait pas de clavier. C'est-à-dire qu'il a un écran transparent et il a un dispositif entièrement touch avec un clavier à retour haptique. Il devient un clavier virtuel qui se met en place au moment où on a besoin d'avoir accès à un clavier. Donc c'est une grande tablette ou un grand trackpad, une grande tablette que pourrait utiliser, je sais pas, tu parlais tout à l'heure d'IA générative et qui crée au fur et à mesure du flux d'informations qui crée les différentes parties de l'image. Moi, je pensais tout de suite quand tu disais ça à un artiste peintre. Toi, tu passes un certain temps de tes loisirs, souvent avec le pinceau à la main. Eh bien, tu te dis voilà, je souhaiterais que mon tableau commence par un ciel bleu et hop, le ciel bleu apparaît. Et sur ce ciel bleu à gauche, je voudrais voir apparaître tel type d'arbre et puis la silhouette de tel personnage célèbre qui s'interroge en regardant le ciel tout en tournant le dos à l'arbre. Et au fur et à mesure, ça se construit. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 10 secondes après avoir écrit tout le prompt, et comme ça, tu rentres en dialogue, ça peut être très intéressant. On pourrait très bien imaginer que ce type de dispositif transparent en laptop, entre la partie tactile, qui est comme une palette graphique, et l'écran transparent avec un assistant génératif à la création, pourrait être peut-être demain une sorte d'arme fatale des concepteurs d'illustration, des illustrateurs ou des graphistes. Mais pour du Word ou de l'Excel, je suis pas certain.
Oui, bah, ça c'est évident. Alors en même temps, tu parles de batterie tout à l'heure, ça m'a fait rebondir sur un sujet. Parce qu'en fait, il y a eu à l'inverse Energizer. Ils étaient déjà venus hein, sur un mobile il y a quelque temps de mémoire parce qu'on en avait parlé. Ça me dit quelque chose. Et quand j'ai vu leur sujet, en fait, finalement, c'était pas tant le téléphone avec la batterie qui augmentait sa longévité et puis le fait qu'on puisse l'utiliser peut-être plus qu'une journée, mais plutôt une batterie dans laquelle on avait intégré un téléphone, une batterie 28 000 mAh, sur laquelle il y avait finalement la batterie et le téléphone à l'intérieur. Et donc beaucoup d'analystes ont repris cette innovation. En disant finalement, c'est plus un téléphone, c'est plutôt une batterie qui intègre le téléphone, parce qu'il y a ce sujet-là quand même de la longévité de la batterie liée aux usages, à l'optimisation de celle-ci par rapport aux différentes applications que l'on utilise et qui font qu'effectivement certains téléphones nécessitent peut-être plus d'une recharge par jour. Alors des téléphones, il y en a eu notamment un avec un bracelet qui aussi c'était Motorola qui présente une interface qui va s'adapter en fonction de la façon dont il est enroulé. S'il est enroulé autour du poignet, l'interface s'adapte pour en faire une montre. Très grosse montre, très gros bracelet, mais en tout cas, ça commence à venir. Voilà. Alors, je vois des applications qui pourraient être intéressantes, hein, mais voilà, tu vois, aujourd'hui les gros bracelets en métal Hermès, mais qui sont en objets précieux, enfin en métal, en métaux précieux, avec des matières plus nobles. Bon, là c'est du téléphone portable, mais il n'est pas exclu qu'ensuite on puisse avoir ce type de bracelet, voilà, connecté, nous offrant la capacité de les transformer ou de connecter nos téléphones directement sur ces bijoux. Ça peut être un des axes par rapport à ces ces marques de bijoux et non pas forcément ces créateurs, pour être intéressant. En tout cas, c'était Motorola. Un ou deux petits derniers, Lionel, qui t'ont séduit. On n'a pas parlé des lunettes, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais on n'a pas présenté particulièrement de sujet. Est-ce qu'il y a une autre innovation qui t'a marqué sur cette édition 2024 du Mobile World Congress?
Alors, c'est vrai que sur... alors, j'ai oublié tout à l'heure, hein, je parlais du ThinkBook, c'est Lenovo, hein, bien sûr, qui est à la manœuvre sur cet écran transparent, sur ce PC portable avec écran transparent et tablette. Autre chose, moi j'aurais été sur des dispositifs qui sont des dispositifs qui sont liés, alors encore une fois, à la voiture. C'est Ultralip qui apporte en fait une partie haptique aux voitures et aux casques de réalité virtuelle qui exposait un dispositif qui était assez intéressant. C'est la capacité que l'on va avoir avec le dispositif dans lequel on va pouvoir jumeler ce qu'il propose, d'avoir à améliorer les sensations quand on est dans une forme d'utilisation d'un dispositif classique comme une automobile ou comme un écran ou un casque plutôt de réalité virtuelle. Vous allez avoir ce petit add-on qui va vous permettre d'avoir des sensations haptiques. Et là, bon, bah voilà, on est revenu, hein, la boucle est bouclée, on en parlait dès le départ, on est revenu à du CES. Voilà, c'est typiquement le genre de dispositif que l'on peut trouver au CES. Et là, à partir de là, bah, on se dit, bah tiens, voilà, on voit au Mobile World Congress des entreprises qui viennent proposer ce type de dispositif. Bon, moi, je suis, j'avais été, quand tu en as parlé, c'était évidemment intéressant ce téléphone bracelet qui est proposé par Motorola. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est comment ils avaient à l'intérieur réussi à rendre souple tout le dispositif électronique et tout le dispositif de batterie. Parce que l'écran, bon, les écrans souples, ça va, ça fait 10 ans quasiment qu'on en voit. Mais là, le tour de force, c'est ça, c'est d'arriver à avoir rendu flexible les éléments constituant même l'intérieur du téléphone. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'a posé souci. Comment ils ont fait? Et puis, alors, surtout, indépendamment du fait que ça peut se mettre en bracelet, tu peux le mettre, je sais pas, comme la base d'une clé de sol, tu vois, et tu le poses finalement sur la table.
Oui, sur ta poignée de poignée de cuisine quand t'es en train de cuisiner pour l'avoir à distance et que la vidéo s'affiche. Oui, oui.
Et comme tu l'as dit, c'est tout à fait l'écran s'adapte à la façon dont il est plié pour mettre l'affichage responsive en fonction du mode de pliage dans lequel il se trouve. Qu'est-ce que j'avais repéré? J'avais repéré. Ah ben je l'avais noté quelque part et je retrouve plus mes notes.
Alors moi pendant que tu es en train de retrouver tes notes, il y a quand même, parce que tu parles de, ça m'a fait tilter à une des conférences de Snapdragon, parce que tout ça ne peut pas se faire sans puces, sans agents, sans les réseaux neuronaux, sans tout. Aujourd'hui tout est blindé de ressources processeurs notamment. Et c'est Snapdragon qui a annoncé aujourd'hui équiper plus de 80 devices différents de réalité virtuelle augmentée, les casques, pour pouvoir leur offrir ce capacitaire afin que les nouvelles applications puissent voir le jour. Donc, quelque part, le sous-jacent est toujours présent.
De toute façon, si on n'a pas le sous-jacent, on sait très bien que l'arrivée des smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui avec leur interface tactile telle qu'on les connaît, c'est lié à l'évolution de la technologie des écrans qui sont passés du résistif au capacitif. Hein, et à un moment, bah, les écrans pouvaient être un simple touch du doigt réactif, alors que précédemment, bah, ils ne pouvaient pas. Il fallait le petit stylet appuyé dessus.
Mais c'était moins le comme charme du Palme très haut. C'était le charme de tous ces HTC qu'on avait avec leur petit stylet. Et c'était la grande classe. D'ailleurs, on pouvait recevoir ces emails en noir et blanc sur un écran complètement pourri. Et on était tous contents.
Alors oui, ce que je cherchais son nom, en fait. Parce qu'en fait, il a pas de nom. C'est ça qui est intéressant. Tu parlais du Rabbit Air One,
ouais.
Qui a donc eu beaucoup, des dizaines de milliers de précommandes. Et en fait, c'est un prototype qui a été signé Deutsche Telekom, qui a été présenté au Mobile World Congress, et qui est un téléphone, alors il l'appelle le T-Phone. Hein, c'est un smartphone sans application. Et quand je voulais en parler justement tout à l'heure, et je cherchais son nom, mais je l'avais noté quelque part. Et ce T-Phone, finalement, un petit peu comme le LAM, le Large Application Model du Air One Rabbit, eh bien, il n'a pas d'application. Il est là juste avec un assistant d'intelligence artificielle qui va aller chercher l'information pour toi en fonction des applications qu'il pourra utiliser pour trouver cette même information. C'est exactement la même offre que le Rabbit, simplement, la même offre. Ça présente en fait la conviction que peut-être demain, nos téléphones qui sont truffés d'applications que l'on n'utilise pas, parce qu'on a été sollicité une fois ou deux par un truc, on a testé, on a regardé et puis on l'a pas utilisé, ça rentre pas dans notre quotidien, dans nos besoins quotidiens. Eh bien, même les réponses que l'on a à nos besoins quotidiens qui sont généralement couverts par une dizaine ou une vingtaine d'applications, eh bien, on n'aura plus besoin d'aller charger les applications. Donc, si on n'a plus besoin de les charger, on n'a plus besoin de les stocker, on n'a plus besoin de se connecter régulièrement pour les récupérer, pour faire les mises à jour, etc. Simplement, les dispositifs de modèles d'intelligence artificielle tels que présentés avec le Rabbit ou le T-Phone par Deutsche Telekom, sans application, seront capables de répondre à nos besoins. Avec un écran, parce que c'est quand même parfois plus facile de visualiser des informations sur un écran, même s'il n'est pas très grand pour un smartphone, mais on revient sur les IPIN, c'est-à-dire je parle, tu interprètes ce que je dis, tu comprends et tu vas chercher l'information en fonction des applications. Plus besoin d'aller télécharger, je sais pas, Spotify, pour entre autres, pour aller lire une playlist. On te dit, voilà, moi j'aime bien les playlists de chansons, je sais pas moi... Texan, du début du 20e siècle, voilà, est-ce que tu as ce genre de musique? Et il va vous les chercher sans que vous ayez le moindre, alors ça pose la problématique des modèles économiques des applications, où généralement il faut des abonnements. Mais en tout cas, voilà, après le Rabbit, il y avait le T-Phone, voilà, le smartphone sans application.
Bah écoute, c'est déjà finalement prêt pour la nouvelle réglementation européenne visant à permettre à n'importe quel store de pouvoir être présent dans n'importe quel téléphone, qui est un Exactement. Des sujets de cette réglementation. Ils ont peut-être pris de l'avance, Deutsche Telekom. Bravo à eux. Voilà. Bon alors après, faut voir si ça marche. C'est encore un autre sujet. L'adoption est toujours compliqué quand on est déjà dans un écosystème et quelque part on accepte aussi de se faire enfermer. Il a été question, bon, on pourra pas tout vous dire, hein, de robots. Avec le Cyberdog de Telcel, bien entendu, la robotique était présente aussi chez Xiaomi. On a vu aussi hein, ce robot avec cette gestuelle humaine qui est absolument remarquable, qu'on avait déjà vu au Mobile World Congress Ameca. Enfin, qu'on avait déjà vu au CES il y a 2 ans, oui. Puisqu'ils étaient venus donc à Las Vegas avec Emika, qui est un super robot magnifique. Génère un sentiment anxiogène quand vous l'avez dans votre salon, mais magnifique. Voilà, donc ce sont des super joujoux intelligents. Bref, un Mobile World Congress, ma foi, qui a tenu ses promesses entre politique, grandes orientations stratégiques sur l'avenir de la mobilité, de la santé à l'heure de la connectivité, et puis bien sûr tous ces objets qui font que le mobile reste le mobile, un peu comme le CES. Hein. Peut-être un un petit coup de cœur sur Honor et sa Foldable Series qui est équipée d'un super petit bracelet pour pouvoir le tenir comme un sac à main. Fantastique. On n'arrête plus le progrès. Et donc là, des fois, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a un marché? En tout cas, un mobile plutôt sympathique. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel?
Oui, on a tout dit par rapport au début. C'est une intro. Après, voilà. Il faut visiter.
Après, il faut le vivre. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, écoutez, si on vous a tout dit, en tout cas, on espère vous avoir fait vivre ce qu'il ne fallait pas rater de ce Mobile World Congress 2024. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Partagez la bonne parole et on se retrouve très vite pour un tour d'horizon d'un nouveau salon ou événement de la tech qu'il ne fallait pas rater. Salut Lionel, salut à tous.
Salut à tous.